Alleluia, 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 alleluia.
Est-ce que vous trouvez que nous vivons dans un monde anxiogène? Est-ce que vous trouvez qu'une des caractéristiques du monde actuel soit, je cite, une forme d'anxiété nerveuse et violente qui nous disperse et nous affaiblit? L'expression ouvre le quatrième chapitre de la lettre du pape François sur la sainteté, où il décrit surtout 5 grandes manifestations de l'amour envers Dieu et envers le prochain, qui sont d'une importance particulière eu égard au monde aujourd'hui dans lequel nous vivons, que je me propose de reprendre avec vous au long de ces dimanches du mois de juillet. En particulier, cette première caractéristique d'anxiété, de nervosité, de violence, qui n'ont d'intérêt que parce qu'elles disent quelles sont les grâces que nous devons demander, quelles sont les vertus que nous devons cultiver, dit le pape, endurance, patience, douceur. 3 qualités de résistance, justement pour ne pas se laisser emporter par l'esprit du monde, pour se laisser conduire avant tout par l'amour. L'amour endure tout. L'amour supporte tout. Il fait confiance en tout, il espère tout. Lorsque nous disons que le monde actuel est fébrile, anxiogène, violent, nous ne disons pas qu'il n'a pas de raison de l'être. Assurément, il y a de quoi être inquiet aujourd'hui face aux multiples désordres, face surtout aux incessants changements, y compris structurels, de notre société. L'Évangile montre d'abord que ces réactions ont toujours existé. Elles étaient peut-être davantage localisées, en tout cas minoritaires. L'Évangile montre des contrastes forts entre des personnes très angoissées et un environnement qui était bien plus stable. Un environnement stable. Mais la pointe du constat porte davantage sur l'impact, sur la conséquence pour nous de cette anxiété nerveuse et violente qui nous disperse et nous affaiblit. La dispersion, ça c'est un trait de notre époque. L'éparpillement et l'affaiblissement sur le plan spirituel, pas seulement au regard de la pratique religieuse, y compris dans ses conséquences sur le plan dépressif, de crise existentielle. Voyez alors la façon dont l'Évangile révèle la force du Christ. Cette force intérieure du Christ que reçoivent ceux qui s'approchent de lui. Jésus est vraiment le Sauveur. Illustration magnifique avec cette femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans. L'Évangile nous fait entrer dans son malheur physique, mais également morale, y compris d'ailleurs financier. Elle avait perdu tout son argent, ça avait plutôt empiré. Et elle a une démarche qui est de l'ordre de la piété populaire, exactement comme pour des reliques. Vous savez, la démarche spirituelle, les reliques, c'est ça. Si on pense qu'on touchait un vêtement qui est entré en contact avec le corps d'un saint. C'est la démarche qui est importante, la démarche de foi, la démarche spirituelle, qui vient simplement se concrétiser, qui se matérialise avec cette relique, ce tissu. Et à l'instant, l'hémorragie s'arrête. Voilà un terme parlant. L'hémorragie, la vie qui s'enfuit. C'est Jésus qu'il faut contempler. L'attitude de Jésus est remarquable. Il s'arrête, se retourne, regarde, demande et attend. Au rebours exact de ce que nous vivons la plupart du temps aujourd'hui. On ne peut pas s'arrêter, on ne peut pas se retourner, se convertir, on ne peut pas regarder, on ne peut pas demander, on ne peut pas attendre. Voilà un bon programme pour notre été. Le pape parle d'un monde qui est au contraire pressé, changeant et agressif. C'est le visage du prince de ce monde, du diable, le tentateur. Ce que tu as à faire, fais-le vite, dit Jésus à Judas au dernier repas. Rappelez-vous la scène, ce dernier repas. Les disciples sont bouleversés. Qui est, Seigneur, celui qui va te trahir, te livrer ? Celui, dit Jésus, à qui je vais donner le premier morceau du plat, littéralement la bouchée, et qui va garder pour lui ce qui lui est donné pour d'autres, qui prend pour lui, qui capte, qui ramène tout à lui. C'est ça, pressé, changeant, agressif, le comportement de celui qui ramène tout à soi. Pressé, changeant, agressif, c'est cette instabilité du monde qui se répercute sur chacun de nous, y compris, alors, sur les disciples qui se moquent. T'as vu la foule et tu demandes qui t'a touché ? Mes amis, il est souvent difficile de parler de choses sérieuses entre nous, y compris en famille, avec les plus proches ou entre amis. Combien de fois est-ce qu'on veut engager une discussion sérieuse et qu'il y a ces petites plaisanteries, ces sarcasmes qui font que souvent on n'ose plus parler de ce qui nous tient à cœur. Et si nous nous efforcions cet été, quand une personne nous parle, de la laisser parler, s'arrêter, se tourner, regarder, demander et attendre. Ah, si nous pouvions conduire nos conversations comme nous cherchons à entrer dans la prière, s'arrêter, se tourner, regarder, demander et attendre. Et la suite de l'évangile est spectaculaire. Lorsque Jésus arrive à la maison avec cette agitation de tous les diables, ça crie, ça pleure, c'est le vacarme. Il y a ce message de résignation qui avait été transmis au père de l'enfant. À quoi bon déranger encore le maître ? Mais ça bascule, plus aucune déférence à l'égard du maître de Jésus. Quand il dit de l'enfant qu'elle va ressusciter, c'est ça qu'il dit, elle dort, elle va ressusciter. On se moque de lui. Ainsi s'explique la particularité de cette page d'évangile, qui est racontée rigoureusement de la même façon par les trois évangélistes. Les trois évangélistes présentent, structurent exactement de la même façon ces deux histoires, enchâssées l'une dans l'autre. La guérison d'une femme à laquelle personne ne faisait attention et la résurrection, le retour à la vie d'une enfant qu'on tenait pour morte. Le passage de l'indifférence à l'incrédulité. Car à force de ne plus faire attention aux autres, on ne croit plus en Dieu. À force de se moquer des autres, on se moque de Dieu. La plupart des moqueurs, on ne peut pas dire les humoristes, les ricaneurs, c'est le terme biblique, les moqueurs, la plupart des moqueurs y succombent. Dans sa lettre sur la sainteté, le pape parle de cette force intérieure, cette force intérieure qui seule rend capable d'endurer toutes les petites agressions de tous les jours. C'est le passage probablement que je préfère tant il s'applique à notre vie. La force intérieure qui est l'œuvre de la grâce nous préserve de la contagion de la violence qui envahit la vie sociale. Car la grâce apaise la vanité. Elle rend possible la douceur du cœur. Le saint. ne consacre pas ses énergies à déplorer les erreurs d'autrui, il est capable de faire silence devant les défauts de ses frères. Comment, d'où lui vient cette capacité, cette aptitude, la source, le Christ. Le Christ. La sainteté que Dieu offre à son Église vient à travers l'humiliation de son Fils. Voilà le chemin. Si tu n'es pas capable de supporter, de souffrir quelques humiliations, tu n'es pas sur le chemin à la sainteté. Et il ne s'agit pas des grandes humiliations, des persécutions, du martyr. Mais les humiliations quotidiennes de ceux qui préfèrent garder le silence. Ne pas répondre, supporter quelque chose d'injuste. L'amour supporte tout, l'amour endure tout, l'amour fait confiance en tout, il espère tout. Jésus a prévenu ses disciples, il leur a dit, le disciple n'est pas plus grand que son maître. Si lui, le Christ, le juste, a enduré et supporté la plus grande injustice, nous sommes invités à notre mesure, lui faire cette confiance. Ne soyons pas comme ceux qui, rendant service, faisant le bien, veulent être appréciés, reconnus, admirés. Amen, je le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais nous, si nous voulons plaire au Seigneur, apprenons de lui le chemin du salut. S'arrêter, se tourner, regarder, demander et attendre.